cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 14 avril 1994.
Aristote montre, c'est une question, par rapport au dernier cours, Aristote montre que la politique a son point de départ dans la famille, qui existe à partir de deux mises en commun, celle de l'homme et de la femme en vue de la procréation, celle de celui qui par nature commande avec celui qui par nature est commandé à cause du salut. Ces deux mises en commun sont-elles celles de la paternité qui en elle-même implique autorité dans l'éducation et la procréation? La mise en commun du maître et de l'esclave n'est-elle pas la seconde mise? N'est-elle pas le second? La seconde prise seulement. Peut-on alors comprendre que le travail, en tant qu'il implique une coopération nécessaire à cause du salut, est aussi point de départ de la politique? Enfin, quel est le lien, le lieu de la justice avec ces deux mises en commun? recherche de la vérité. Je suis tout à fait d'accord qu'Aristote a une certaine autorité. Mais l'autorité en philosophie, c'est la dernière des raisons. C'est pour ça que je n'ai pas cité Aristote. Je n'ai pas besoin de citer Aristote. La réalité, elle est là, c'est que l'amour d'amitié existe indépendamment d'Aristote. Et la famille existe indépendamment d'Aristote. Et que la famille ne se fonde pas sur le travail. Elle se fonde sur l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Autrement, vous tombez sur Hésiode, qui dit quand tu te maries, fais attention, aie une paire de bœufs et une femme qui travaille. Bon, c'est très intéressant historiquement de voir comment Hésiode fonde la famille, mais je ne dirai pas ça aujourd'hui. Quand quelqu'un vient me demander conseil si il doit se marier ou pas, as-tu de peur de eux? Et est-ce que la femme que tu vois, la jeune fille que tu vois, est-ce que c'est une travailleuse? Ton mari ne te marie pas. Hein? Ça, c'est des Hésiodes. Point de vue historique. C'est intéressant. Mais je dis le point de vue chrétien a complètement changé. Ce qu'il y a de commun entre Aristote et Hésiode, c'est que le travail pour Hésiode est premier, pour Aristote il est déjà second, et pour nous les troisième. C'est curieux, hein? C'est même très intéressant de voir cette évolution d'Hésiode à Aristote, d'Aristote à nous. Pour nous. Pour Aristote, la famille implique ces trois dimensions.
Je comprends cette position.
la survie. Faut la famille puisse vivre, tu restes prudemment. C'est ce qu'on dira tout de suite. Un père de famille ou une mère de famille dira ah, tu veux te marier, mais est-ce que tu as pensé à la possibilité de vivre? Oui. Ceci se rattache à la prudence, se rattache aux moyens. Ce n'est pas quelque chose qui est radicalement naturel. Oui, c'est naturel par la prudence, mais ce n'est pas du tout comme dans la perspective d'Aristote, où l'économie était premièrement familiale. Pour Aristote, l'économie est familiale. Avant d'être d'État politique. Aujourd'hui, l'économie est politique. C'est un fait. Marx l'avait très bien compris, ça. Alors, il a exagéré. Et par le fait même qu'il a exagéré, ça a eu une répercussion sur tout le monde. Mais, au fond, l'aspect de l'économie est naturel parce que il faut bien vivre. Et donc, ça relève de la prudence. Comment allez-vous vous débrouiller économiquement? Voilà la question qu'on se posera. Oui. Tandis, et ça, c'est tout simplement une nécessité de survie pour la famille. Cette nécessité de survie, elle peut dépendre de l'État, elle peut dépendre de se débrouiller comme on le peut, et ainsi de suite, vous voyez. C'est deux choses différentes, c'est pas du tout cela qui structure la famille. L'aspect économique ne structure pas la famille. Nécessaire, mais ça ne structure pas. Ce qui structure la famille, c'est l'amour d'amitié. Donc au plan philosophique, je crois qu'il faut être très net là-dessus. Et si on ne structure plus la famille par le point de vue de l'amour d'amitié, en comprenant que cette amitié a quelque chose de tout à fait particulier, parce que elle est porteuse de fécondité, elle est source de fécondité. Et par là, elle donne à cette amitié un caractère substantiel. C'est la différence de toutes les autres amitiés. Elle a un caractère substantiel et elle est le fondement de la politique. Une politique qui ne se fonde plus sur la famille est une politique qui est vouée à la destruction. Parce qu'elle n'a plus de fondement naturel. Elle n'aura plus que comme fondement le point de vue du travail, l'efficacité, l'argent, l'aspect économique, qui n'est plus un fondement naturel. C'est nécessaire, condition, sine qua non, mais ce n'est pas la finalité. On ne se marie pas pour gagner de l'argent. Vous savez, tous les mariages qui reposent là-dessus, tout tard craque. Parce que une des deux familles fait faillite. Une des deux familles sur laquelle on comptait, on est, il y avait le capital des parents qu'on hériterait un jour. C'est pas la finalité de la famille. La finalité de la famille, c'est l'amour des conjoints. Un amour qui doit avoir un réalisme tout à fait particulier, puisqu'il s'agit de vivre ensemble. C'est la seule amitié qui exige de vivre ensemble. Les autres amitiés, qu'il y ait quelque chose de commun, mais c'est pas vivre ensemble. C'est que ça, c'est vivre la vie commune. Et la vie commune, en vue de la procréation et en vue de l'éducation, ça se tient. Pour cette éducation et cette vie en commun, il faut pouvoir économiquement trouver son trou. Plus ou moins grand. Donc, condition sine qua non, et pas finalité. Et donc la coopération dans le travail, trouver la possibilité, ça c'est une condition sine qua non, c'est bien évident, mais ça regarde la prudence. Vous devez être prudent pour trouver un métier, un travail qui vous permettra de vivre. Et si vous ne regardez pas ça, tout le monde vous dira, vous êtes imprudent, ne vous mariez pas tout de suite. Soyez quand même suffisamment réaliste pour voir que si vous vous mariez, il faut la vie commune, il faut la possibilité de vivre. Oui, conditions sine qua non. C'est très important de distinguer ce qui structure la famille de la condition sine qua non. Et Marx a fait de la condition sine qua non la structure de la famille, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Confondre la finalité et la condition sine qua non, ça aboutit à détruire le fondement naturel. Il y a des contraintes sociales qui peuvent être plus impératives que les contraintes de la finalité. Mais ce sont des contraintes sociales. Il faut bien distinguer les contraintes sociales qui relèvent de la causalité matérielle, qui relèvent de la condition sine qua non et qui ne structurent pas. Au contraire de ce qui structure. Qu'est-ce qui structure la famille? C'est l'amour d'amitié des conjoints, donc qui touche la finalité. Quand la famille ne tient plus que sur des contraintes sociales, contraintes sociales économiques ou contraintes sociales ne pas scandaliser, ça ne dure jamais très longtemps et ça ne donne pas le bonheur. Donc vous voyez, c'est ça que je répondrai en premier lieu. Je suis tout à fait d'accord qu'Aristote dit ça, mais ça c'est les conditions du temps. Est-ce qu'elle plus changé entre Aristote et nous? C'est que le point de vue du travail est passé de la famille à l'État. Et entre deux, on respecte une communauté de travailleurs. Et il faut que la communauté de travailleurs puisse garder son caractère propre. Il dépend du point de vue politique, il dépend de la famille, mais il a un caractère propre. Donc d'une certaine manière, la conception de la famille, puisque nous sommes dans l'année de la famille, hein, donc nous devons y penser. On doit penser à ça, il faut se faire la philosophie de la famille, pour nous. C'est nécessaire pour ensuite faire la théologie de la famille. Mais il faut faire la philosophie de la famille. Et ne faites pas la philosophie de la famille directement à partir d'Aristote. Vous aboutiriez à une impasse. Voyez qu'au point de vue politique, c'est ce qui a le plus changé depuis Aristote. Mais Aristote note des principes qui sont très intéressants, qu'on doit tous critiquer pour voir qu'est-ce qu'on doit garder de cela. C'est évident que le point de vue économique familial a changé. Il ne faut pas revenir à ça. Ce sera un retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Alors, il faut voir qu'on a exagéré dans un sens avec Marx. Il n'y a pas le seul, mais tout le socialisme. Tout le socialisme ramène toujours le travail à l'aspect politique. Le travail a sa structure propre qui n'est pas le point de vue politique. En premier lieu, oui, autrement dit, il faut essayer philosophiquement de maintenir le point de vue de la communauté amour d'amitié. L'amour d'amitié fonde l'éthique personnelle. L'amour d'amitié fonde l'éthique familiale. Donc, j'ai là le métaxu qui me permet de voir le lien entre les deux. Cherchez s'il y a un autre métaxu.
Prudent pour vous en occuper. Mais l'Église s'en occupe pas. Et le prêtre qui vous dirige
plus loin, venez. Ça tiendra, ça permettra de tenir un petit moment. Plus vite que quand il n'y a rien, c'est évident. La condition sine qua non est plus manifeste, mais philosophiquement parlant, ça revient au même. Alors, voyez, Aristote, lui, et ça, ça fait partie de son temps. La structure, le travail, c'est ce qui est le plus lié au temps. Parce que le travail est un devenir qui est lié au temps. Et donc, il n'a pas de finalité immédiate au travail. On travaille pour réaliser une œuvre. On ne travaille pas premièrement pour gagner de l'argent, pour réaliser une œuvre. Cette œuvre est agréable, cette œuvre permet de vivre, cette œuvre permet, et ainsi de suite. C'est très très important de se rappeler ça. Donc, qu'est-ce qu'a fait le point de vue de l'éthique chrétienne par rapport au mariage, par rapport à la famille? Il a donné une exigence plus nette de la finalité de la famille. Ça, c'est sûr. Autrement dit, on a une conception beaucoup plus nette de la famille qu'Aristote. Et on doit lutter contre la non-conception de la famille chez le marxiste. C'est toujours le point sur lequel il faut, voyez, montrer les limites du marxisme. Je vous ai déjà dit ça. Quand vous êtes en face d'un marxiste qui est marié, vous êtes sauvé. Si il a une vraie vie de famille. La vraie vie de famille fait sauter le marxisme. Parce que s'il a une vraie vie de famille, vous lui direz, mais votre praxis, votre conception du marxisme, qu'est-ce que ça vous apporte? Au point de vue de votre vie de famille, votre amour à l'égard de votre épouse, rien du tout. Donc, vous voyez bien, c'est pas une philosophie humaine. Que la famille est ce qui permet de noter tout de suite le réalisme d'une philosophie. Une philosophie idéaliste, une philosophie qui n'est pas réaliste, tout de suite en face de la famille échoue. Et on peut montrer immédiatement que cette philosophie n'est pas une vraie philosophie. Puisque une vraie philosophie doit s'intéresser à la famille. Pourquoi? Parce que le problème de la procréation est un problème humain. Numéro un, c'est le fondement de toute la communauté humaine. C'est pas la contemplation, c'est la procréation. sauf s'ils gagnent beaucoup et qu'ils boivent beaucoup. Alors ce sera l'alcoolisme. C'est vrai, il faut voir les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Le célibat n'est vivable que s'il y a la contemplation. Et au point de vue philosophique, ça peut pas être autrement. Parce que vous avez ou la finalité du mariage et des enfants et de l'éducation, ou bien vous avez la contemplation. Autrement, c'est impossible. C'est impossible. Alors ça tiendra un moment de générosité, mais la générosité n'est pas la finalité. Donc ça cassera. Alors, je reprends la question, vous allez tout de suite comprendre. Aristote montre, et c'est Aristote dans la politique, tout à fait d'accord, les deux relations. Mais je distingue tout de suite l'une qui structure et l'autre qui ne structure pas. La mise en commun du maître et de l'esclave n'est-elle pas la seconde? Alors, maintenant, regardons le point de l'autorité. Est-ce que l'autorité va naître à partir de l'amour d'amitié ou à partir du travail? Très grosse question. Est-ce que l'amour d'amitié va fonder l'autorité ou est-ce que c'est le travail? Autrement dit, est-ce que la coopération dans l'amour d'amitié et la coopération dans le travail sont-elles les mêmes? Coopération ou solidarité, mais j'aime mieux coopération. La solidarité, c'est venu après coup. Coopération, tout de suite. La coopération dans l'amour d'amitié se fonde sur l'amour d'amitié. On n'a pas besoin d'autorité dans la coopération de l'amour d'amitié. C'est pour ça que l'amour d'amitié ne fonde pas immédiatement l'autorité. Je crois. Vous êtes là très. Faut pas aller trop vite. Je crois que l'amour d'amitié implique tout de suite comme fruit la coopération. On se donne l'un à l'autre. Alors la coopération, qui apprendra des modalités très différentes, coopération première dans le point de vue de l'amour et de la fécondité et de l'éducation. Coopération déjà dans l'éducation. Alors elle va-t-elle impliquer l'autorité? Coopération dans le point de vue de la procréation, c'est l'amour d'amitié. Coopération dans l'éducation. Alors là, je crois que déjà dans l'éducation, le point de vue de l'autorité va apparaître. Mais faisons attention, l'autorité par rapport à l'enfant. L'éducation est finalisée par l'enfant. La coopération du père et de la mère dans l'éducation n'est pas la même. Et cette éducation va impliquer une autorité. Je ne peux pas éduquer sans avoir un sens de l'autorité. Pas suffisant de dire j'aime, la mère dit j'aime mon enfant, le père dit j'aime mon enfant, donc je suis un merveilleux éducateur. Pas du tout. suis dans l'amour d'amitié, je suis dans la finalité. J'aime. J'aime deux personnes, tu vois. C'est, dans l'amour d'amitié, c'est deux personnes qui s'aiment et qui ne regardent pas en premier lieu l'éducation. L'époux qui aime son épouse ou le fiancé qui aime sa fiancée, il va pas dire « je l'aime pour l'éduquer ». Vous êtes sûr que ça va rater? Oui, c'est ça. Je l'aime pour la convertir, donc l'éduquer. Alors à ce moment-là, la finalité n'est plus première, c'est le devenir. Et dans le travail, c'est le devenir. Alors c'est curieux de voir que l'autorité apparaît au moment où il y a un devenir. L'autorité est un service en vue de permettre une coopération dans le devenir pour que la finalité soit parfaitement respectée. Mais l'autorité apparaît, il y a une nécessité de l'autorité à cause du devenir. Autrement dit, alors, si on creuse un tout petit peu, hein, pour qu'il y ait coopération dans le devenir, il faut l'autorité. Pour qu'il y ait coopération dans le devenir, cette coopération dans le devenir apparaît au niveau éducation. D'abord au niveau travail, puis au niveau éducation. L'éducation est un travail en commun par rapport à l'enfant. Et la coopération dans le travail implique une certaine autorité en vue d'une œuvre. Je ne crois pas que l'autorité apparaissent avant ce point de vue du devenir. Vous voyez ? Au plan philosophique. Hein. Pourquoi ? Parce que dans la finalité, on est un par la finalité. Et donc quand l'amour est présent, on est un dans la finalité. Tandis qu'au contraire, le devenir implique potentialité. Dans l'ordre du devenir, la puissance est antérieure à l'acte. Dans la finalité, l'acte est antérieur à la puissance. Philosophie de l'acte et de la puissance. Or, si la puissance est antérieure à l'acte, dans le devenir, potentialité implique une indétermination. Et l'autorité est nécessaire pour que la détermination soit là. Je crois que c'est à cause de ça que l'autorité apparaît. Et c'est à cause de cela que l'autorité apparaît dès qu'il y a coopération dans l'ordre du devenir. Si vous voyez bien ce point de vue-là, ça me semble important pour voir la naissance de l'autorité. À quel moment l'autorité apparaît? Au plan philosophique, hein, pas au plan théologique, au plan philosophique. À quel moment l'autorité est-elle nécessaire dans une communauté pour pouvoir vivre de la manière la plus efficace et la plus paisible. exercer son autorité pour que la coopération se fasse dans le devenir. Autrement, dans le devenir, il n'y a pas de coopération possible sans autorité. Pourquoi ? Parce que dans le devenir, la potentialité est première. Et si la potentialité est première, ce n'est pas la coopération qui va naître de cette potentialité. Il faut que l'un puisse voir avec plus netteté la finalité que l'autre. Pour que la finalité et donc la détermination puissent exister. Et ça me semble très important. C'est parce qu'on n'a plus aucun sens distinction de l'être et du devenir, qu'on est tellement anti-autorité. On pense que la démocratie va supprimer toute autorité. On est tous égaux. Donc, pas d'autorité, on est tous égaux. On n'est pas tous égaux. Dès qu'il y a le devenir, on n'est pas tous égaux. Il y en a un qui est un peu plus avancé que l'autre par rapport à l'acte, par rapport à la finalité. S'il est un peu plus avancé que l'autre, il voit mieux et donc il doit aider l'autre. Alors il y a une possibilité de coopération. S'il n'y a pas d'autorité, l'un est plus avancé que l'autre et donc ce serait une rivalité constante. L'autorité supprime la rivalité. Et à la place de la rivalité permet la coopération. Sans